sommaire de cette édition du jeudi 19 septembre 2024. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo Ondimba annonce son renoncement définitif.
Sylvia Bongo et Nouredine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville. Qu'on les libère!
L'avocate de la famille Bongo à suivre dans un instant. En Guinée, le ministre de la Justice annonce l'extradition de Claude Pivi, arrêté au Libéria selon son avocat. Son client reste introuvable à Conakry. Au Mali, les autorités n'ont toujours pas communiqué sur le bilan de l'attaque de mardi à Bamako, mais le quotidien Le Soir a annoncé les funérailles d'une cinquantaine d'élèves gendarmes ce jeudi. Le chef du Hezbollah accuse Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges et promet de punir l'État hébreu. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Gabon, pour commencer, Ali Bongo Ondimba appelle à la réconciliation nationale et à la clémence pour sa famille. Dans une lettre adressée au peuple gabonais, le président déchu annonce son retrait définitif de la vie politique et demande la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine en détention depuis le coup de force du 30 août 2023. L'authenticité du courrier de l'ancien chef de l'État gabonais est confirmée par son conseil à Libreville. Maître Gisèle Eyu Bekale, avocat de la famille Bongo, est au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Aujourd'hui, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville. Qu'on les libère! La lettre de Monsieur Ali Bongo Ondimba, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est claire. Il dit qu'il est le seul responsable. Et il voudrait que sa famille le retrouve chez lui en résidence surveillée, comme on dit. Même si j'aime pas beaucoup ce terme, qui n'est pas un terme juridique. Mais qu'on les libère et qu'il rentre chez lui, ça n'empêchera pas le juge d'instruction de poursuivre son instruction. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en liberté provisoire ou en liberté ou assis en résidence depuis qu'il y a eu ce coup d'État et leur dossier se poursuit. Pourquoi garder mes clients en otage? C'est le cri et c'est l'appel de M. Ali Bongo Ondimba.
Maître Gisèle Eyu Bekale, l'avocat de la famille Bongo. Le président comorien Azali Assoumani a présidé aujourd'hui le Conseil des ministres, apparaissant pour la première fois depuis l'attaque au couteau dont il a été victime. Il y a près d'une semaine, M. Azali, 65 ans, n'avait plus été vu depuis le 13 septembre, lorsqu'il avait été, selon la présidence, légèrement blessé à l'arme blanche par un jeune militaire lors de funérailles d'un notable religieux dans une petite commune surplombant la capitale Moroni. Le ministre guinéen de la Justice a assuré que le colonel Claude Pivi, fugitif le plus recherché du pays, a été extradé après son arrestation mardi au Libéria. Mais selon son avocat, Maître Abdourahmane Dabo, Claude Pivi est pour le moment introuvable. Délie Dico nous en dit plus.
Claude Pivi a été condamné en août à la prison à vie pour crime contre l'humanité pour son implication dans le massacre de 2009 à Conakry. Le 17 septembre 2024, les efforts conjoints des forces de défense et de sécurité ont permis d'arrêter le fugitif. Il a été ramené à la maison centrale pour purger sa peine, a dit le ministre Yahya Kairaba Kaba. Mais selon son avocat, Maître Abdourahmane Dabo, Claude Pivi est pour le moment introuvable. « J'ai envoyé quelqu'un à la prison centrale de Conakry, il n'y était pas. J'ai envoyé des gens à l'aéroport, ils m'ont dit qu'on ne l'y a pas vu. À 6 heures ce matin, une source qui suit le dossier m'a confirmé qu'il est encore à Monrovia », a dit Maître Dabo. Hier, il avait indiqué que son client a été arrêté au Libéria sans donner de détails. Depuis 10 mois et son évasion de la prison centrale de Conakry, l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle était en cavale. Son arrestation a été accueillie avec un vif soulagement de la part des associations de victimes du massacre du 28 septembre 2009. Ce jour, au moins 156 personnes ont été tuées et une centaine de femmes violées en public dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs.
Au Mali, l'école de la gendarmerie nationale a été visée hier par une attaque terroriste le jour de son 64e anniversaire. En ce qui concerne le bilan de cette attaque, des chiffres sont avancés dans la presse malienne sans que les voix officielles ne se prononcent. Notre correspondant Mohamed Danyoko nous fait le point.
À la une du quotidien privé, l'Indépendant de ce jeudi, l'on apprend un peu plus sur le bilan côté terroriste. En grande manchette, le journal indique qu'il y a eu 10 terroristes tués et plusieurs suspects appréhendés. Le seul journal dans les kiosques qui se penche sur le bilan au sein des forces armées maliennes est le quotidien privé Le Soir de Bamako. Sa une indique que suite à l'attaque terroriste de la gendarmerie de Faladier, les obsèques d'une cinquantaine de gendarmes auront lieu ce jeudi dans l'enceinte de l'école, un chiffre en deçà de ceux annoncés par des agences de presse étrangères. Si pour le moment, les autorités de la transition et l'état-major général des armées n'ont pas communiqué sur le bilan de cette attaque, des journaux comme le quotidien Nouvel Horizon appellent à situer les responsabilités. Quant au quotidien Info Matin, il se penche sur les dessous d'un complot, les condamnations unanimes et la mobilisation générale autour des forces armées maliennes. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se sont dit ouvertes à des solutions pacifiques qui permettraient de mettre fin au conflit qui les oppose depuis plus de 17 mois. Le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a déclaré mercredi que le gouvernement soudanais restait ouvert à tout effort constructif visant à mettre fin à la guerre avant que le chef des FSR, Mohamed Abdan Daglo, n'exprime une position similaire ce jeudi. Ni Abdel Fattah al-Burhan, ni Mohamed Abdan Daglo n'ont détaillé les moyens qui permettraient de parvenir à une résolution pacifique du conflit. En Tunisie, le candidat à la présidentielle Ayachi Zamel a été condamné à 20 mois de prison à quelques jours du scrutin qui doit se tenir le 6 octobre. Ayachi Zamel, à la tête du parti d'opposition Azimoun, a été arrêté il y a 2 semaines, accusé de falsification de parrainage, ce qu'il nie. Le verdict d'aujourd'hui est motivé et politiquement injuste et vise à saper ses chances dans la course présidentielle, a déclaré son avocat Abdesattar Massoudi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé 7 sites du Hezbollah dans le sud du Liban au lendemain de plusieurs explosions des systèmes de transmission du mouvement islamiste. Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, promet une punition sévère à Israël. Nathalie Barge.
L'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes nocturnes sur des sites d'infrastructures et un dépôt d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban. Mardi et mercredi, des explosions de beepers et de talkie-walkie du Hezbollah ont fait 37 morts et plus de 2900 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. 20 membres du Hezbollah sont morts dans ces explosions, selon le mouvement islamiste libanais. Hassan Nasrallah, chef de ce mouvement pro-iranien, a reconnu aujourd'hui que le Hezbollah a reçu un coup sévère et sans précédent, accusant Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges. Il a prévenu qu'Israël fera face à des représailles sévères pour les explosions d'appareils. Le chef du Hezbollah a ajouté que l'État hébreu ne sera pas en mesure de rapatrier ses résidents du Nord, déplacés par 11 mois d'échanges transfrontaliers. Aucune escalade militaire ou guerre totale ne pourra ramener les habitants à la frontière, a-t-il affirmé. Des avions israéliens ont survolé Beyrouth pendant son discours. Le premier ministre libanais Najib Mikati a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit d'urgence demain, à arrêter ce qu'il a qualifié d'agression d'Israël contre le Liban.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé aujourd'hui à Paris pour participer à une réunion sur le Proche-Orient, alors que les attaques visant le Hezbollah au Liban exacerbent les craintes d'une guerre totale dans la région. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont appelé à une désescalade. Quant à Gaza, les négociations autour d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse. Israël et le mouvement islamiste palestinien se renvoyant la responsabilité de l'échec des tractations. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avertit les alliés de part et d'autre de l'Atlantique contre toute tentation isolationniste. Dans son discours d'adieu prononcé ce jeudi à quelques jours de son départ de l'Alliance, après 10 années à la tête de l'Alliance Atlantique, l'ancien premier ministre norvégien quitte ses fonctions le 1er octobre pour être remplacé par un autre ex-chef de gouvernement, le néerlandais Mark Rutte. Et puis, plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à la semaine prochaine au siège des Nations Unies pour participer à l'Assemblée générale de l'organisation. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Dani Talani.
Ouverture hier à Abidjan en Côte d'Ivoire du deuxième forum des transports de la BAD, axé sur la modernisation des infrastructures et le développement des corridors essentiels à la zone de libre-échange continentale. Le forum va aborder aussi la situation des ports et aéroports africains face aux chocs extérieurs et les fluctuations du marché. Au Nigeria, les habitants touchés par les inondations à Maïdougouri la semaine dernière se plaignent des tarifs exorbitants pour les trajets en canoë. Les propriétaires de canoës ont proposé leur aide pour évacuer les résidents, mais facturent des frais élevés atteignant jusqu'à 80 000 naira pour un court trajet, ce qui dépasse le salaire minimum mensuel. Pour terminer, 5 mois après son lancement, la nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZiG, a perdu près de 80% de sa valeur sur le marché noir en raison d'importations de céréales qui réduisent les réserves de change. Les habitants manquent de confiance envers le ZiG, préférant utiliser le dollar américain. Selon la Banque centrale, les autorités pourraient favoriser l'utilisation du ZiG en augmentant les taxes en monnaie locale et en injectant plus de devises sur le marché.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Tony Parker en visite à Kinshasa, en RDC.
Oui, l'ancienne star de la NBA a été reçue par le président Félix Tshisekedi. Tony Parker, qui est arrivé à Kinshasa en début de semaine, a présenté plusieurs projets visant à promouvoir le sport congolais. Le basketteur franco-américain, qui a pris sa retraite du sport professionnel en 2019, s'est dit motivé par le désir de transmettre ses connaissances et son expérience.
Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays. Et c'est vrai que là, le Congo et ce qu'on a discuté avec Monsieur le Ministre, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi, je suis animé par la transition à ma retraite sportive. Et on a essayé d'expliquer le projet à Monsieur le Président. Et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place.
Tony Parker, ancienne star de la NBA.
Nous parlons de boxe à présent. Christian Billy veut affronter Canelo.
Classé parmi les meilleurs super moyens, Christian Billy espère défier prochainement le roi de sa catégorie. Le Mexicain Canelo Alvarez, triple détenteur des ceintures WBA, WBO et WBC, à la faveur de ses 28 victoires en autant de combats, dont 23 avant la limite, le Français fait figure de challenger numéro 1 d'Alvarez Canelo.
Financièrement parlant, ça sera un combat très payant et en même temps battre un Canelo, tu entres dans l'histoire financièrement, tout est bénéfique et en même temps tu récupères les 3 ceintures sur 4. Je pense que actuellement c'est un peu l'homme à battre de la catégorie.
Superstar de la boxe, Canelo ne combat plus que 2 fois dans l'année, en mai et en septembre, à l'occasion des 2 principales fêtes mexicaines. Il a d'ailleurs conservé samedi dernier à Las Vegas ses ceintures mondiales après sa victoire par décision unanime contre le jeune loup portoricain Edgar Berlanga, un succès qui porte son bilan à 62 victoires, 39 par KO pour 2 défaites et 2 nuls. Interrogé dès la fin de son combat pour connaître l'identité de son prochain adversaire, Canelo n'a rien dévoilé et a même feint de ne pas connaître Billy.
Je sais pas si c'est de la provocation ou pas, mais c'est sûr que je le comprends tout à fait. Et c'est pas arriver à ce niveau-là où vous voulez pas faire de la pub gratuite à quelqu'un. Donc, s'il me connaît pas, tant mieux. Sinon, on fera présentation sur le ring.
Une présentation ou une explication sur le ring qu'attend Christian Billy impatiemment.
En football, suite ce jeudi des matchs de la première journée de la Ligue des Champions en Europe.
Entre autres rencontres, près de 6 ans après sa dernière sortie ratée en Ligue des Champions, Monaco renoue avec la prestigieuse compétition par un choc contre l'éternel FC Barcelone au stade Saint-Louis II. Arsenal du Ghanéen Thomas Partey défie l'Atalanta Bergame du Nigérian Lookman Ademola. Vainqueur de la dernière Europa League, l'Atlético Madrid joue contre le RB Leipzig. À suivre aussi, Brest-Storm Graz de l'Australie.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les pays d'Afrique centrale peaufinent leur stratégie de lutte contre la criminalité transfrontalière et transnationale. Les 8 pays membres du comité des chefs de police de la région sont réunis à Yaoundé pour discuter de la situation et des mesures à prendre pour faire face à une sérieuse menace. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelentap.
Les pays de l'Afrique centrale font face à de nombreux défis sécuritaires avec des ramifications au-delà de leurs frontières. Une situation qui interpelle le comité des chefs de police d'Afrique centrale, dont la RDC est l'un des 8 pays membres. De Gaulle, Matangi, Bolo, Dego, Kasseba espèrent Interpol en RDC.
Pour résoudre les problèmes de la sécurité, il faut des solutions holistiques. Il ne faut pas qu'il y ait des zones qui soient sécurisées et d'autres qui ne le sont pas. Voilà pourquoi, bien que la RDC ne soit pas membre de la CEMAC, nous faisons partie du CCPAC et nous coopérons avec tous les pays membres du CCPAC dans le but de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et la criminalité transfrontalière.
En avril de cette année, grâce à la coopération et l'entraide des services de police de l'Afrique centrale, 2 Camerounais en fuite ont été interpellés au Cameroun après avoir commis un forfait au Congo. Lieutenant-colonel de police du Gabon, Esaïe Ovono Eyi Mezui, secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale.
Il s'agissait d'un enlèvement d'une jeune fille et avec demande de rançon. Vous savez que nous avons déjà pris en compte cette nouvelle forme de criminalité en émergence en Afrique centrale, en zone CEMAC, depuis la dernière session sécuritaire. C'est une nouvelle forme de criminalité que nous avons inscrite à l'ordre du jour et pour laquelle il faut que les dirigeants prennent des décisions.
Le trafic de drogue et les crimes transnationaux menacent la paix en Afrique centrale. Martin Bargangele, délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun.
Le comité des chefs de police de l'Afrique centrale s'est réuni chaque année. Et cette fois-ci, comme cela a été dit tout à l'heure, nous n'avons plus eu de réunion depuis 2020 en présentiel à cause de la COVID-19. Maintenant, nous sommes dans un environnement très, très difficile et compliqué. Nous devons nous concerter pour tracer la voie à suivre afin de faire face à tous ces défis qui nous interpellent. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement.
Mais certains dossiers traînent au sein de ce comité des chefs de police, à l'instar de la création de la brigade mixte en zone CEMAC, ou encore la finalisation du volet sécurisation des frontières afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Lieutenant-colonel de police, Esaïe Ovono Eyi Mezui, secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale.
Aucun pays au monde ne peut lutter seul contre la criminalité transfrontalière. Il faut s'associer. Il faut que les services de police de nos différents États collaborent entre eux pour être efficaces. Nous devons mettre en place une carte d'identité CEMAC. Nous devons mettre en place différents titres de séjour de la CEMAC afin que nous puissions véritablement vivre notre rêve qui est de voir l'émergence d'une CEMAC des peuples. Et c'est possible.
Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Alexandrine Rolonio avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les États de l'AES annoncent le lancement de nouveaux passeports biométriques avec pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans leur espace commun à la suite de leur retrait de la CEDEAO. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023. Quel bilan pour l'Alliance un an après sa création ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voaafrique.com pour une analyse.
Les 3 candidats en lice pour devenir le prochain secrétaire général du Commonwealth soutiennent tous fermement que la Grande-Bretagne et d'autres puissances coloniales doivent payer des réparations à leurs anciennes colonies pour les atrocités commises dans le passé, notamment la traite des esclaves. Henri Rigouel en dit plus depuis Londres, le récit Yacouba Ouedraogo.
Le Commonwealth est né des cendres de l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale. La grande majorité de ses 56 membres sont d'anciennes colonies britanniques. L'organisation doit choisir un nouveau secrétaire général lors de la réunion des chefs de gouvernement qui se tiendra à Samoa le mois prochain. Lors d'un récent événement organisé à la Chatham House de Londres, il a été demandé aux trois candidats à ce poste, tous originaires d'Afrique, s'ils étaient favorables à l'idée que la Grande-Bretagne verse à ses anciennes colonies des réparations pour la traite transatlantique des esclaves et d'autres atrocités commises dans le passé. Tous les trois ont répondu par l'affirmative. Shirley Botchway est la ministre des Affaires étrangères du Ghana et candidate au poste de secrétaire général du Commonwealth.
Les réparations financières sont une bonne chose. Cependant, la conversation s'oriente maintenant vers d'autres réparations en nature. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très bien, mais je suis pour les réparations. La question de savoir si le Commonwealth a un rôle à jouer dépendra des chefs de gouvernement.
Joshua Setipa est un candidat du Lesotho.
Le Commonwealth a un rôle à jouer parce qu'il s'agit d'une question qui concerne plus de la moitié de ses membres.
Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la Gambie et candidat au poste de secrétaire général du Commonwealth.
C'est une cause noble qui doit être défendue par les États membres.
Lors du dernier sommet du Commonwealth qui s'est tenu au Rwanda en 2022, le prince britannique de l'époque, aujourd'hui le roi Charles, a fait part de son profond chagrin à propos de la traite des esclaves. Mais la Grande-Bretagne a rejeté toute forme de réparation. On ne peut plus l'ignorer, affirme Kingsley Abbott, directeur de l'Institut d'études du Commonwealth à l'Université de Londres.
Les réparations ne se limitent pas à une compensation monétaire en vertu du droit international. Elles peuvent prendre de nombreuses formes telles que la restitution, la compensation, la réhabilitation et la satisfaction, des excuses significatives, la reconnaissance publique, la commémoration et d'autres choses de ce genre. Il s'agit donc d'une conversation essentielle et permanente qui, je pense, restera une priorité de l'agenda international. Le Commonwealth a donc naturellement un rôle à jouer.
L'ancien premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que, je cite, « Essayer de décortiquer notre histoire n'est pas la bonne façon d'aller de l'avant ». Son successeur, Keir Starmer, n'a pas encore fait connaître sa position. Mais la pression va probablement s'accentuer lorsque les représentants de la Grande-Bretagne et de plusieurs de ses anciennes colonies se réuniront sur un pied d'égalité lors du sommet du Commonwealth le mois prochain.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Kenya, un officier de police a choisi de lutter contre la criminalité par des activités sportives. En 2020, il a lancé l'équipe de football de Mataré afin d'empêcher les jeunes de sortir dans la rue et d'avoir des ennuis. 4 ans plus tard, l'équipe est toujours aussi dynamique, comme vous allez le voir dans ce reportage de Joël Massibo, relaté par Thierry Kaori.
Stephen Omende, 30 ans, fait partie des forces de police depuis 8 ans et a travaillé pendant 4 ans dans la vallée du Mata, un quartier informel de la capitale kenyane, Nairobi, qui compte environ 500 000 habitants et où la criminalité est omniprésente.
Les jeunes d'ici n'ont pas beaucoup d'opportunités et sont donc facilement attirés par la criminalité. Je voulais leur montrer les différentes façons d'obtenir des opportunités et j'ai choisi le football parce que le football a été ma motivation.
Malgré l'absence de statistiques récentes, le personnel de sécurité et des habitants comme Austin Otieno affirment que l'initiative footballistique d'Omende, lancée il y a 4 ans, a eu un impact sur le comportement des jeunes, le taux de criminalité et les incidents de violence policière.
Nous avons constaté une baisse significative de la criminalité et des affrontements avec la police. La communauté se sent en sécurité et plus unie.
L'étudiant Gilbert Oujuka affirme que l'initiative a fait la différence.
Maintenant, je me concentre sur mes études et je rêve de devenir footballeur professionnel.
Grâce au programme de football, au moins 50 jeunes délinquants sont aujourd'hui des membres à part entière de la société. Des parents comme Irène Wakuli disent qu'ils ont maintenant des objectifs, qu'ils sont autodisciplinés et qu'ils comprennent la valeur du travail d'équipe.
Ce programme a changé notre vie. Mon fils est désormais un modèle dans notre communauté. Avant, je craignais de le perdre un jour dans une bagarre de rue ou une confrontation avec la police. Tout cela a changé.
ACLE, une organisation à but non lucratif qui suit les données sur les conflits et les manifestations dans le monde, a constaté qu'entre juillet et septembre 2023, il y a eu 176 décès liés à la violence politique impliquant la police. La plupart de ces incidents se sont produits dans le comté de Nairobi, qui a connu une forte augmentation des manifestations antigouvernementales au cours de cette période. C'est là que l'initiative Domindé entre en jeu. Ses collègues policiers sont également motivés pour s'engager auprès des jeunes par le biais du sport. À Kangemi, un autre quartier informel de Nairobi, des policiers comme Johnson et Tal ont créé une équipe de football dans leur zone de compétence.
La tension entre la police et les jeunes était très forte au sein de la communauté. Trouver des moyens créatifs pour traiter avec les jeunes qui vivent des conditions économiques difficiles est le seul moyen d'instaurer la paix dans la communauté.
Omindé dit que l'initiative est utile à la communauté.
Pour ces garçons, le football est plus qu'un simple sport. C'est une bouée de sauvetage qui leur donne de l'espoir et qui façonne leur avenir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Tous les quatre ans, la course à la présidence des États-Unis se concentre sur les swing states. Ces champs de bataille peuvent faire basculer d'une élection à l'autre le vainqueur de la Maison-Blanche. Leurs grands électeurs décident souvent de l'issue du scrutin. Il est essentiel de comprendre l'importance des swing states pour comprendre comment l'Amérique choisit son président. Dili Diku explique.
Les swing states, états pivots, sont essentiels pour remporter la Maison-Blanche en 2024. Ces États sont le théâtre de campagnes politiques les plus féroces et les plus coûteuses, et leurs électeurs exercent une influence considérable sur l'élection. Alors, comment cela fonctionne ? La plupart des États sont de manière prévisible, rouge ou bleu, républicain ou démocrate, mais dans les swing states, le résultat peut aller dans un sens ou dans l'autre. Un candidat a besoin de 270 votes sur les 538 du collège électoral pour remporter la présidence, en général par le biais d'élections au niveau de l'État où le gagnant remporte la majorité des suffrages. Cette année, l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin détiennent les clés de la Maison-Blanche. À travers eux, 93 votes du collège électoral pourraient passer soit au rouge, soit au bleu. Les marges électorales de ces États sont minces en raison d'une répartition quasi équilibrée entre les électeurs républicains et démocrates. Les changements démographiques et la divergence d'opinion entre les zones urbaines et rurales rendent ces résultats imprévisibles. Des changements, même minimes, peuvent faire basculer l'ensemble d'un État et donner à Kamala Harris ou à Donald Trump l'avantage au sein du collège électoral. En 2016, Donald Trump a remporté la Pennsylvanie avec une marge de 0,7%, s'assurant ainsi 20 votes du collège électoral et la présidence. Quatre ans plus tard, Joe Biden a reconquis l'État avec une avance de 1,2%, ce qui l'a aidé à remporter la Maison-Blanche. La même année, Joe Biden a remporté la Géorgie avec une faible avance de 12 000 voix, faisant basculer l'État du rouge au bleu pour la première fois depuis Bill Clinton. Les swing states sont imprévisibles, mais une chose est sûre, ils auront une influence considérable en 2024. Dans ces États, chaque vote compte.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM
Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.